Donc, dans un événement de la marche de 16 km des Jeux olympiques, la femme chinoise menait les autres athlètes jusqu'à la dernière phase de la compétition. Et s'était entraînée dur pendant les dernières années. La distance qu'elle couvrait pouvait faire plusieurs fois le tour de la globe, le tour de la Terre, pardon. Une médaille d'or était en vue, mais tandis qu'elle s'approchait de cette dernière ligne droite, elle voyait s'approcher derrière elle, à vive allure, une autre personne qui avait un pas plus rapide. Elle est tentée de lever les deux pieds pour casser son rythme de marche et se mettre à courir. Mais elle s'était rappelée qu'il y a déjà 2 fois qu'elle avait enfreint la règle, qu'elle avait s'était mise à courir, et une troisième fois, elle serait disqualifiée pour sa médaille. Elle a vu venir derrière elle encore une deuxième personne qui l'a dépassée, mais elle s'était maîtrisée parce qu'elle n'a pas voulu faire défaut. Arrivée, elle a entendu déjà avant elle la foule qui applaudissait la première venue, celle qui avait remporté. Mais quand on a annoncé le nom du gagnant, c'était son nom qui a été prononcé. Parce que les deux autres qui l'ont devancé ont enfreint la règle de jeu. Elle était donc disqualifiée. Et celle qui était troisième, elle était la vainqueur, la gagnante de la médaille d'or. Dans notre vie de course, il y a maintes distractions, maintes pressions, mais nous avons devant nous Jésus-Christ. Et c'est lui qui devons être donc notre objectif et aussi que nous devons respecter les règles de ceux qui nous commandent. De peur que quand on se retrouve à la fin, en phase d'entrée au ciel, on ne soit pas disqualifié, on espère que non. Mais peut-être que nos efforts n'auraient pas éprouvé ou trouvé autant de récompenses de ce qu'on aurait souhaité. Apocalypse chapitre 14 et 15 nous rappelle que nous tendons vers cette entrée glorieuse. Nous l'avons chantée ce matin. L'agneau sur le trône, qui est saint, est dans une foule, parmi une foule innombrable. Nous allons l'adorer, l'aimer, le proclamer. Mais maintenant, nous avons aussi, avec ce texte, une vue plus précise sur ce que serait ce moment. Je vous invite à tourner avec moi, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 14 et 15. Pour voir ces moments importants dans notre vie. Chapitre 14 du livre d'Apocalypse. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'une forte coupe de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et devant les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu, pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé du mensonge. Ils sont irréprochables. C'est une scène remarquable devant les cieux où les 144 000, qui est une image figurée, qui dénombre tous ceux qui ont été scellés, préparés dans le livre d'Apocalypse, dans ce dernier temps, ont été mis devant l'agneau. Il n'y avait aucun d'entre eux, qui était perdu. Eric nous a rappelé ce matin de prendre le Seigneur Jésus-Christ, de prendre cette décision, de croire, d'accepter son pardon pour nos péchés et de venir au Christ pour ce pardon. Et puis, ça, c'est ce début de connaître cet agneau. Et personne d'entre ceux qui ont été choisis, qui le connaissent, il est écrit, a été perdu. 144, c'est 12 fois 12. Et 1000, c'est le cube de 10. Nous avons donc le nombre de complet de tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui ont été appelés, qui sont devant ce trône. C'est l'agneau donc qui garantit, qui les soutient. Et nous, de notre côté, si nous gardons dans notre course les yeux fixés, les yeux de notre cœur sur l'agneau, c'est lui qui nous fortifie, qui nous soutient. Mais aussi, pas simplement c'est l'agneau, mais aussi ils avaient une marque. C'était un peuple racheté, mais un peuple aussi qui avait affiché leur appartenance à Jésus-Christ. D'autres, dans le livre d'Apocalypse, appartenaient à d'autres choses, à d'autres systèmes. Ils portaient des médailles, ils portaient d'autres éléments qui affichaient leur appartenance. Mais ici, ceux qui sont, dans ces derniers temps, rachetés, même devant la pression, même devant la persécution, ils ont une marque clairement affichée sur le front qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Il y avait un prix à payer. Ils vont contre-courant. Parce que dans ces derniers temps, nous avons lu au chapitre 12 et 13, que les autres avaient une marque de la bête. La marque d'un système qui s'opposait à Dieu. Et eux, ils s'affichent clairement d'être ceux et celles qui appartiennent sans honte d'une appartenance très ouverte à Jésus-Christ. De deux, ils chantent fort. Quand on chante, je crois que si il en vaut la peine, il faut mieux chanter. Fort, avec conviction. Eric, ce matin, nous a un peu taquiné. Il nous a dit, si vous jouez une fausse note, si vous chantez faux, chantez avec conviction, ou jouez avec conviction. Et puis, jouez un morceau. Mais je crois que pour notre Seigneur Jésus-Christ, il est digne de toute notre affection, de tout notre amour. Et que quand on chante, de chanter avec zèle, avec force, parce qu'on l'aime. Ils ont été rachetés, ils n'en avaient pas honte, ils chantaient fort. La Bible dit comme une voix des tonneurs, des grandes eaux. C'est quelqu'un du premier siècle qui décrit cette multitude qui devant le trône de Jésus-Christ adore. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Parce qu'il les a rachetés. Et nous aussi, nous voulons être parmi ce groupe, parmi ce nombre, cette multitude, devant ce trône. Mais quand nous lisons les tout derniers versets dans ce paragraphe, nous constatons que pas seulement ils étaient rachetés, ils étaient aussi ceux qui suivaient, qui menaient une vie particulière, qui donnait gloire à Jésus-Christ. Ils avaient la marque, ils chantaient, mais aussi ils suivaient. Premièrement, quand il dit qu'ils étaient vierges, je crois que la meilleure façon de l'interpréter, ayant consulté les commentaires, c'est qu'ils se sont abstenus de toute impureté figurée ou littéralement pour la sexualité ou pour leur attachement uniquement à Jésus-Christ et à Dieu. Ils ne se sont pas livrés à un système profane, un système du monde qu'on pourrait décrire comme étant adultère, qui se compromet, qui a un pied avec Jésus-Christ et un pied en dehors. Ce sont des gens, au contraire, qui veulent rester purs et se purifient. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». même de guérir, même de parler en son nom. C'est plutôt de le connaître, de le suivre. Et donc, on voit qu'ils ont respecté une pureté dans la sexualité et dans de nos jours, c'est encore à rappeler. Nous avons tant de tentations à la télé, sur les panneaux publicitaires, par l'Internet, pour dériver. De deux, ils ont été rachetés et dans leur bouche ne s'est trouvé pas de mensonge. Dans la bouche, ils se sont gardés des personnes qui avaient aussi un langage respectueux et pur. Un langage des paroles qui ont été celles qui glorifient Dieu et aussi celles qui édifient les hommes. Le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, avait dit ceci. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Si notre cœur est rempli de Jésus-Christ par son esprit, si nous aimons Dieu, mais nous ne pouvons pas voir notre frère, il serait difficile que nous soyons devant le trône de l'agneau. Donc, ces personnes se sont purifiées, ils se sont gardés purs dans le langage, ils se sont gardés purs dans leur attachement à Jésus-Christ et aussi dans leur sexualité. Ils sont donc, comme dit la Bible, irréprochables. Dans un parc se trouvait un chêne massif. Une vigne avait poussé le long de son tronc et la vigne avait commencé toute petite. Mais avec les années, elle commençait à prendre l'ampleur jusqu'à couvrir la moitié de l'arbre. Et maintenant, ce chêne solide, énorme, était menacé. Les jardiniers, ayant vu le danger, ont sectionné le tronc de la vigne. Mais les branches étaient restées. Mais avec le temps, ayant plus de force, ces branches vont tomber, vont lâcher prise. Et ce chêne va grandir, va vivre. Ainsi en est-il avec nos vies en Jésus-Christ. Jésus veut construire quelque chose pour lui-même. Ils sont des prémices pour Dieu, la Bible dit. Nous ne vivons plus de manière vaine ou pour nous-mêmes ou pour uniquement nous distraire. Et quand la vie ou quelque chose ne nous plaît pas, on le jette. Nous vivons pour Jésus-Christ, pour bâtir comme des chaînes, pour construire. Mais nous devons veiller sur ces petites vignes qui peuvent monter, qui peuvent étouffer. Jésus-Christ, par son sang, a déjà coupé, par son pouvoir, sa mort sur la croix, leur pouvoir. Nous sommes libres. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'être délivrés de ce qui pourrait menacer, ce qu'on pourrait laisser croître, comme des petites choses qui peuvent menacer, étrangler nos vies. Nous avons donc cet appel, un très haut appel, d'adorer Jésus-Christ. Un appel pour être racheté, accepter son sacrifice pour nos fautes, pour nos péchés. De nous détourner des mauvaises voies, de nous purifier, pour que, pas simplement devant lui, mais aussi devant tous, nos vies soient pures, intègres, saintes, à l'image de Jésus-Christ, fort et consacré. De deux, nous voyons dans les versets qui suivent qu'il y avait un deuxième groupe. Un groupe qui n'avait pas franchi ce pas vers Jésus-Christ. Un groupe plutôt qui était resté avec les autres. Un groupe qui se complaisait avec la situation, avec le status quo, le métro, le boulot, le dodo, les valeurs autour de nous. Et qui ne s'est pas détaché pour aller vers l'éternité, mais qui était resté ici, à se complaire avec ce qu'il y a ici, avec cette vie terrestre uniquement. Et il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Et même un appel. Verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un second ange, suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête, devant son image, et reçoit une marque sur le front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ainsi la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Une mise en garde, parce que Dieu connaît notre faiblesse, il connaît notre chair, notre penchant, il connaît la pression des autres autour de nous. La télé, les amis, la famille, les collègues qui veulent qu'on soit comme eux et nos propres cœurs qui ont envie de... C'est dur de se détacher de ce monde. C'est dur pour suivre cet appel. Je vis cet ange et il annonce un évangile éternel. Jésus a dit, mes paroles ne vont jamais passer. La terre et le ciel vont passer, mais mes paroles vont rester. Nous avons donc tout intérêt à nous attacher à la parole de Jésus-Christ, à la parole de l'Évangile. Babylone est un symbole de l'exil avec le roi le plus puissant du monde, le premier monde, le premier empire mondial plutôt, de Nebuchadnezzar. Là où était envoyé Israël, quand ils ont délaissé leur Dieu, Dieu les a envoyés à Babylone, loin de Jérusalem, loin des champs, loin de leur terre natale. Et c'est là où Dieu, il appelle donc ce système de monde qui s'érige, qui ne connaît pas Dieu, et qui même, qui induit les uns les autres à se détourner de Dieu, il appelle Babylone, figurativement, pour nous rappeler de ce premier empire, de ce premier empire mondial. Babylone est tombée, dit l'ange. Elle n'est plus. Nebuchadnezzar n'est plus. Ce sont les Perses qui sont venus. Après, ce sont Alexandre et les Grecs. Après, ce sont les Romains. Après, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps du Christ où son royaume avance et Babylone et ce monde est en train, avec tous ses attraits, avec tout ce qui flash, tout ce qui miroite, tout ce qui attise, et un jour ne sera plus. Je ne sais pas quand on veut faire un achat important. Souvent, on regarde dans les catalogues, on fait ses recherches pour Internet, ou on appelle, on demande aux vendeurs si on trouve des gens qui peuvent nous répondre. Et on cherche un bien ou quelque chose qui tienne la route. Je suis allé au Castorama pour chercher quelque chose pour tendre la pelouse, parce que l'ancien taillait, ou plutôt était morte. Voilà. Débroussailleuse était morte. Et donc, on pense plutôt à une petite tondeuse. Donc, on prend la tondeuse. Est-ce que ça marche? Oui, ça ira. Ça va faire l'affaire. Bon, la terre est quand même un peu rocailleuse. Il y a des dénivellations. Elle n'est pas vraiment en très bon état. Bon, je prends première gamme. Un premier prix, bas de gamme. Ça ira. Hop, à la caisse. Je mets en marche. Je n'avais pas de tournevis. Et là, je mets à la main de mon mieux. Et je n'avais pas entendu qu'une seule fois. Et la chose est tombée en morceaux. Je ramène à la maison. Je retourne à Castorama. J'achète quelque chose qui avait une marque. Quelque chose qui tienne la route. Babylone et ce monde vont passer. Et qu'on en entende que l'évangile est éternel et que Jésus-Christ, pas Nebuchadnezzar, vont durer. On a tout intérêt de mettre, pas son argent, mais son âme, dans ce qui est éternel et ce qui tiendra. Ça n'empêche que ce monde attire, qu'il y a des attraits, que nous sommes sollicités, ou encore qu'il y a un système qui s'oppose à Dieu, qui veut aussi s'opposer à votre foi, qui veut nuire, qui veut détruire. Et ici, on parle de la bête qui était une personne qui incarne comme un dictateur. Archi méchant, mais le plus méchant, si vous mettez tous ensemble, Pol Pot et Hitler et tout le monde, là, vous l'avez. Il ne fera pas de cadeaux. Mais ceux qui n'ont pas reçu dans les derniers temps la marque sur la main ou sur le front n'auront plus de possibilité d'acheter. Nous l'avons vu il y a quelques chapitres. Donc il y a un système monétaire qui va s'ériger pour mettre pression contre les chrétiens. Et ça d'une façon mondiale. Donc, la Bible recommande de faire attention à ce système ou à ceux qui pourraient mettre pression contre le chrétien, contre ceux qui veulent pas se satisfaire avec ce qui est éphémère, bas de gamme, la première marque, premier prix de ce monde. Mais de viser plus haut, de ce qui coûte, mais d'avoir une sécurité éternelle. Mais de faire attention à cet ange, à ce message de l'Évangile. Médina, Italie, au début du siècle passé, avait mis une annonce dans le journal du 25 décembre 1908. En Sicile, en lançant à Dieu un défi, que si tu es là, frappe-nous de séisme, montre-toi. 3 jours plus tard, il est réputé, le 28 décembre, la ville et son district étaient dévastés par un tremblement de terre qui a tué 84 000 personnes. C'est vrai que de nos jours, on peut demander, il est où ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais quelque part, je crois que Dieu, il se présentera. Quelque part, c'est Dieu qui reste éternel et qui reste tout-puissant. Et nous avons tout intérêt de ne pas basculer, de ne pas mettre un pied dans le monde et un pied sur Jésus-Christ, sachant que le monde tombera et vous laissera tomber. Alors que Jésus-Christ, lui, il a donné son sang. Et lui, il vous aime tendrement. Et il est fort, il est puissant pour aussi nous racheter, pour nous garder, pour nous protéger et pour nous amener au bon port. Le troisième principe dans ce texte, pour nous préparer, pour arriver au bon port, pour adorer Dieu, est de nous préparer à bien vivre, bien terminé, ce pourquoi Dieu vous a créé. Nous avons tous été créés pour un objectif, pour des raisons. Et nous avons tous la joie de découvrir ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons des talents, nous avons des dons pour servir. Et ceci est important pour pouvoir utiliser et découvrir, parce que Dieu y demandera. Est-ce que nous avons reçu le pardon de Jésus-Christ? Et puis de deux, qu'avons-nous fait avec ce que Dieu nous a donné à faire? Et c'est là où ces œuvres il nous demandera un compte pour ses talents ou ses moyens qu'il nous donne. Heureux les morts, au verset 13, qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête, et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple, en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et notre ange sortit du temple, qui était dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Notre ange, qui avait pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Il arrivera à un moment où Dieu y demandera des comptes. Il fera lui-même la coupe. C'est lui-même qui ramènera ce qui lui appartient dans son grenier, et ce qui ne lui appartient pas seront mis en dehors. Donc, mais pour nous, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, ils font qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et vous et nos chers amis, quelles sont ces œuvres que Jésus-Christ veut que nous accomplissions? Les occasions de parler de Jésus-Christ, comme a dit Muriel ce matin, de témoigner. Les occasions de prier, de s'encourager, de se fortifier ensemble pour que nous grandissions, pour que nous arrivions à être ce que Jésus-Christ veut que nous soyons, à nous stimuler. Laisser de côté, nous n'allons pas avoir le courage ou la force de grandir. Il faut être ensemble, il faut se retrouver ensemble pour s'encourager mutuellement, mais encore plus, en semaine aussi. Si on se retrouve que le dimanche, on aura assez d'encouragement, de chants, de paroles, de prières, peut-être pour, je pense, pour arriver. Mais quand serait-il pour vos œuvres, les choses que Dieu vous demande, vous invite à faire? Les talents qui vous confient. Il me semble qu'on sera tellement distrait par les activités quotidiennes, les sollicitations de ce monde, qu'on risque plus de ressembler à ce monde qu'à notre Dieu. Heureux, la Bible dit, les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Et Jésus-Christ veut que ce qu'il nous donne à faire, nous le fassions, nous l'accomplissions. Quel que soit votre rôle dans l'Église, pour le Christ, à le trouver, à y grandir, afin de porter du fruit, afin que vos œuvres restent et que vos œuvres suivent. Il n'a pas dit « afin que vous vous reposiez ». Il a dit « afin que vous vous reposiez et que vos œuvres suivent ». Et c'est là où, en faisant ici ce que Dieu nous demande de faire, vous aurez du repos pour l'éternité. Et aussi, vous aurez des récompenses. Le Fils de l'homme assis, c'est ce qu'il avait dit à Daniel. Le prophète Daniel avait dit, pardon. Je regardais à Babylone et j'ai vu paraître un Fils d'homme. À Daniel chapitre 7. Et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite.
Jésus, sur terre, s'était donné comme titre le Fils de l'homme. Mais quand on le revient à Daniel à Babylone, il a vu celui qui était venu sur les nuées, ce Fils de l'homme qui s'approche de l'Ancien des Jours. Et on lui dit, il va régner, éternellement.
Jésus-Christ, maintenant, à la fin de sa vie, il avait achevé son œuvre. Devant le souverain sacrificateur, qui l'interrogea, de nouveau il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, béni ?» Et Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec le nuée dans le ciel. » Et vous verrez.
Jésus-Christ, il accepte entièrement cette identification d'être celui qui sera assis. Dernier texte sur l'identité de cet personnage, ce personnage mystérieux, le Fils de l'homme.
Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 13, versets 41-42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans le fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements des dents.
Et c'est ça, je pense, ici le texte auquel on fait allusion en Apocalypse. Il y aura une moisson. Et c'est le Fils de l'homme aussi qui y sera. Il en va des anges. Et là, les âmes seront moissonnées et se présenteront devant Jésus-Christ pour savoir si ils se mettront avec les heureux. Et quand la Bible dit heureux, ce n'est pas avec le petit b, bonheur. C'est les heureux qui sont remplis avec tous les bienfaits que Dieu leur donne. Parce qu'ils se reposent. Mais leurs œuvres les suivent. Et tout ce qu'on aura investi pour le Christ dans nos vies, dans la vie des uns et des autres, suivra. Heureux, la Bible leur dit. Si on compare avec les versets qui précédaient, où les œuvres des autres étaient jugées et tourmentées, nous avons tout intérêt de comprendre que nous ne voulons aucunement être du côté de ce sans-Dieu, mais plutôt avec le Christ. Il y a une très grande différence. Et c'est important.
Dernière image, chapitre 15 et le verset 2. Je vis comme une mer de cristal mêlé de feu, les vainqueurs de la bête, son image et le chiffre de son nom debout sur la mer du cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul, tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée.
Cette dernière image, devant la mer des cristals, nous avons vu au chapitre 4, devant le trône de Dieu, cette mer placide, devant le trône de Dieu qui brillait, entouré par les êtres vivants, par les personnes. Et maintenant, ceux qui ont vaincu, qui sont devant ce trône, et nous allons figurer parmi ces gens un jour, devant ce trône de Dieu. Il y avait la mer, le cristal, mais de l'autre côté, du feu, du jugement de Dieu, de la présence de Dieu. Et ceux encore qui étaient rachetés, ils chantaient le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est quoi ce cantique de Moïse? Moïse qui est l'image de celui qui est délivre de l'oppression, de l'esclavage, qui amène dans le pays. Et l'agneau, c'est celui qui amène de l'esclavage, du péché, de l'oppression de ceux qui ne veulent pas suivre Dieu, qui s'opposent à Dieu. Pour pouvoir être une fois pour toutes, pour l'éternité, délivrés vers ce bonheur éternel dont parle la Bible. Qui ne craindrait donc, qui ne te glorifierait pas? Grande et merveilleuse sont tes œuvres. Qu'est-ce que le Christ a fait pour vous cette semaine? Et nous avons entendu certaines choses, mais encore, marchons avec le Christ, purifions-nous avec la grâce et la force du Christ, avec l'amour fraternel, l'aide des uns des autres, qui nous stimulons les uns les autres pour marcher, pour être prêts, pour être à la hauteur, afin que nous soyons heureux, afin que quand nous chantions ce chant nouveau, nous puissions aussi devant son trône dire: ses œuvres sont admirables et les nôtres vont suivre. Les nôtres vont suivre parce que nous sommes devant le trône ici-bas. Il fait en nous ses œuvres, mais ses œuvres en nous sont les œuvres de nous purifier, de nous garder, de nous renouveler, de nous restaurer, de nous pardonner, de nous transformer aux enfants de Jésus-Christ, enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, qui sont prêts. Et un jour, c'est terminé. La fossile a coupé. Le dernier ange a passé. La dernière annonce de l'Évangile a déjà été faite. Il n'y aura plus d'occasion ni de servir, ni de grandir, ni de se purifier, ni de connaître notre Dieu, les secrets de ceux qui, seuls qui peuvent chanter. Parce qu'on connaît cet agneau, on se connaît. Et puis on arrive. Et ce qu'on aura fait nous suivra et on se repose. Mais combien c'est beau et combien je pense que le Seigneur veut que nous soyons tous devant son trône. Tous prêts à l'adorer. Et que lui-même, il puisse aussi, nous puissions chanter ce qu'il aura fait ici-bas, dans nos vies. Et à cause de nous, à cause de notre présence, les uns auprès des autres, pour s'encourager, pour apprendre à aider, entraider, apprendre à, être, à pardonner, à supporter, et les œuvres suivent. Mais que quelque part, à cause de votre existence, de mon existence, quelle différence nos vies auraient-elles faites ? Dans la vie des autres, pour l'éternité. Quand cette fossile va trancher, qui sera du côté de l'agneau et pas du côté du mal? À cause de notre manière de vivre, de nos paroles, de nos prières. Un dernier mot. Ce qui était versé... Bon, excuse-moi, je me coupe, on va voir ça la prochaine fois. Tout simplement... Prenez courage, vos efforts ne sont pas en vain. Pour servir, pour aider, pour aimer, il y a au contraire une éternité pour dire et pour célébrer, pour fêter ce que le Christ aura fait pour vous et par vous. Recevez ces paroles parce qu'elles sont inscrites pour notre édification, pour nous, pas très près, pour le Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Problème de... Merci.